10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent tous les samedis, 1h pour parler d'islam en direct entre 10h et 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali ?
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis venu un peu plus tôt aujourd'hui, c'est vrai, mais bon, comme j'avais déjà préparé mon sujet, donc je suis quelqu'un de studieux et de particulièrement...
Non, c'est parce que vous vouliez manger tranquillement votre beignet.
Voilà, c'est le beignet de mon fils en plus.
Vous l'avez terminé là ou pas ?
Ouais, ça y est, c'est réglé.
Bon, c'était bon au moins ?
Alhamdoulilah, mon petit déjeuner.
Ouais, très bien.
Parce que je suis sorti plus tôt aujourd'hui.
Non, mais si vous mangez bien, ça vous fait une belle émission.
Inch'Allah, on essaye.
C'est ça qui est important.
Il faut être là pour nos auditeurs, nos auditrices qui sont assoiffés de sciences religieuses. Et je les invite tout de suite à appeler le 01 53 48 3000 pour poser leurs questions. Allez, 01 53 48 3000. Ah, c'est moi le présentateur aujourd'hui.
Non, vous êtes bien.
Voilà, je suis bien dans mon...
Vous êtes parfait. Vous avez
01 53 48 3000 pour poser vos questions.
Il est chaud, l'imam.
Voilà, il est très très chaud.
L'imam est plutôt tout.
Parce que j'espérais en avoir au moins AA. Enfin, ouais. Il est arrivé.
L'imam est toujours chaud, de toute façon. Voilà. On va revenir sur un événement qui a défrayé l'actualité cette semaine, imam Abdelali. C'est ce chauffeur de car qui a diffusé des versets du Coran à plein volume durant 40 minutes d'un trajet entre Aix-en-Provence et Marseille. Comment est-ce que vous réagissez ?
Avec beaucoup d'irritation. Je suis particulièrement irrité par ce comportement irresponsable de ce chauffeur, qui pour moi a commis une grave erreur. D'abord, ne serait-ce que déjà, confirmer l'idée que diffuse qui confirme et alimente et donne du blé à moudre à tous les détracteurs, les islamophobes, etc., qui considèrent que l'islam est en train d'envahir la France et on leur donne raison avec ce genre d'attitude, qu'effectivement un chauffeur qui vient imposer la lecture du Coran dans un bus public qui est censé transporter des passagers qui ne sont pas forcément musulmans et qui n'ont pas forcément envie d'écouter le Coran, je dis bien, s'il l'avait mis à son niveau à lui dans la cabine où il est, il n'y a pas de problème. Mais qu'il impose cela à tous les passagers du bus, c'est totalement inadmissible, intolérable. Je suis encore plus moins énervé que nos coreligionnaires non musulmans qui n'auraient pas apprécié qu'on leur impose cela. C'est totalement, pour moi, irresponsable. Ça, c'est la première chose. C'est qu'il a, dans un premier temps, aggravé la situation de l'image de l'islam. Secondo, il a imposé à des non-musulmans sous forme de contrainte quelque chose que Dieu interdit. C'est le fait d'imposer la religion aux autres. Normalement, l'islam, on ne la transmet, on en informe de celle-ci que seulement à la demande de celui qui est devant vous. C'est-à-dire, si quelqu'un vous interroge sur l'islam, sur le Coran, sur n'importe quoi qui est en religion, en rapport, vous répondez à sa question. Mais vous ne venez pas d'emblée aborder la question de la religion et imposer la thématique, le sujet de conversation, etc., aux gens comme ça, sous prétexte que vous êtes dans une démarche de vouloir faire de la prédication, prêcher la bonne parole. Hein, toute vérité, je le répète, n'est pas toujours bonne à dire. Hein, et comme le disait le sage, si tu veux lancer la flèche de la vérité, trempe la pointe dans le miel. Hein, c'est pas parce que tu penses avoir la vérité absolue, et tu as le droit de penser, c'est normal, ça s'appelle la foi. Mais utiliser cette conviction que tu as au fond de toi-même pour l'imposer aux autres dans un contexte laïque où tu es dans un rôle où t'as un petit pouvoir, le pouvoir de décider qu'est-ce que tu pouvais diffuser dans le bus, eh ben je trouve ça lamentable de la part de ce jeune homme qui a, je répète, sali l'image de l'islam, qui a non seulement en plus commis un acte incompatible avec le Coran qui parle de non-contrainte en religion. Tu ne peux pas imposer la religion et il a imposé le Coran alors que le Coran lui interdit de le faire. Et troisièmement, c'est ce qui est en plus absurde dans l'histoire, c'est qu'il s'est fait virer. Il s'est fait virer de son poste et il n'est pas prêt de retrouver une place ailleurs parce que son dossier va être noir et que à chaque fois on va lui dire monsieur non, si c'est pour nous mettre du Coran aux passagers, il n'est pas prêt de trouver du boulot ce gars-là. Tout ça parce que il était dans une démarche de vouloir faire du prosélytisme et prêcher la bonne parole et prêcher le Coran et imposer le Coran aux autres. C'est totalement intolérable. Je rappelle que l'islam doit s'intégrer paisiblement dans l'espace public de manière discrète. C'est celui qui demande, qui toquent la porte des référents religieux qui veulent en savoir sur l'islam, d'ouvrir la porte à la demande des gens. Ce n'est pas à nous de venir faire du porte-à-porte ou imposer la parole de Dieu dans les bus ou dans les espaces publics ou dans les espaces dans la rue, etc. Nous avons un devoir de réserve, de retenue, de discrétion, parce que la foi, les convictions, ça relève de la sphère privée. La même chose que je reproche aux homosexuels, du moins aux LGBT, cette même chose que je dis, oui, ils ont la liberté de choisir leur sexualité comme bon leur semble. C'est la liberté de chacun avoir la sexualité qu'il veut. Mais moi, ce que je dénonce, c'est cette ostentation, c'est constamment sortir et faire de la propagande LGBT dans la rue.
Vous n'avez pas une autre comparaison?
C'est une très bonne comparaison. Autant je reproche aux musulmans et extrémistes qui veulent imposer l'islam aux autres, de la même manière que je dénonce ceux qui veulent imposer une autre idéologie, une autre manière de vivre et de l'imposer dans l'espace public. Pour moi, tout cela, que ça soit la sexualité ou les convictions religieuses, relève de la sphère privée. Elle doit rester dans l'espace privé. Et c'est indispensable pour le respect des gens qui vivent dans la société. Même si la loi vous donne certaines libertés, au nom de la liberté, on peut dans la rue faire. Mais moi, j'appelle au nom de la moralité, au nom de la courtoisie, au nom de la politesse, de réserver ses convictions à sa sphère privée et que d'en parler que seulement si on vous pose la question. Si on vous demande quelque chose en matière de religion, là, à ce moment-là, vous en parlez. Pareil pour LGBT, pareil pour le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme ou quelconque philosophie et autre religion.
Ou la tauromachie, rassurez-moi.
Si tu veux, la tauromachie.
Je ne sais pas.
C'est différent, la tauromachie, parce que là, il y a une divergence de convictions qui, je pense, a le droit d'être exposée dans l'espace public, puisqu'il s'agit du bien-être animal. Est-ce qu'il est louable de respecter les traditions au détriment des animaux, ou est-ce qu'au contraire, il faut arrêter cela parce que cela fait du tort Non. Donc le débat, là, il peut être ouvert, il n'y a pas de difficulté. Mais je répète, de la même manière que si on vous propose pas d'en parler, t'as pas besoin d'en parler ni même de l'imposer aux autres. C'est le minimum du respect. Dieu, dans le Coran, il dit même à son prophète, وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Si tu es quelqu'un de lourd, غَلِيظَ الْقَلْبِ, avec un cœur lourd, c'est-à-dire quelqu'un d'antipathique, en gros, c'est ça l'expression que Dieu veut dire, les gens te fuiraient, s'éparpilleraient de ta personne et s'éloigneraient de toi, lui dit. Et quand ce chauffeur dit au gars, c'est mon bus, si t'es pas content, tu descends, pour moi, cette attitude-là est totalement incompatible avec le Coran qu'il est en train d'imposer aux autres. Mais quelle logique il y a à faire écouter le Coran et puis ensuite de leur dire, si vous êtes pas content, vous descendez. Monsieur, il a payé. C'est son bus à lui. Pendant ce laps de temps du trajet entre Marseille et Aix-en-Provence, le bus est à lui puisqu'il a loué une place pour être déplacé de Marseille. Donc tu n'as pas à dire que c'est mon bus. Donc il y a là une attitude injuste, intolérable, et une attitude que moi j'appelle tous nos co-religionnaires à prendre comme exemple pour justement faire en sorte que l'islam retrouve la sérénité qu'elle doit avoir et qu'elle puisse ainsi s'intégrer paisiblement, en toute sérénité, dans l'espace public, dans l'espace républicain et dans l'espace laïque. Je répète, l'islam relève de la sphère privée. Même quand tu veux faire ta prière dans la rue, par exemple, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que quelqu'un met ce que je dis. Il faut impérativement chercher un endroit où tu peux t'isoler, où tu es sûr de ne déranger personne. Mais faire par exemple cela en plein milieu du trottoir, en plein milieu du passage piéton, etc. Voilà encore, là c'est une attitude, encore une fois, que je dénonce, qui est insupportable et qui est irresponsable de la part de nos co-religionnaires, qui, je répète, font fuir les non-musulmans, suscitent chez eux la haine, alors qu'on est censé promouvoir l'amour et le respect et le vivre ensemble et le faire société. On peut pas le faire société si on est en train constamment d'essayer d'imposer nos convictions aux autres. Ils ne le font pas. Pourquoi nous on le fait? Est-ce que vous avez vu des chrétiens dans la rue en train de s'exhiber dans leurs convictions religieuses? Ils le font dans l'église, nous le faisons dans nos mosquées. Et il y en a suffisamment, alhamdoulilah, en France. Elles se construisent à chaque moment où on parle actuellement. On est à plus d'une centaine de mosquées par an, il faut le savoir. Ce sont deux mosquées qui sont érigées par semaine. Deux mosquées par semaine qui sont érigées en France. Donc, alhamdoulilah, les choses vont bien. la plupart des villes sont conciliantes, je ne dis pas toutes les villes, mais il y a la plupart d'entre elles sont conciliantes et approuvent la construction de lieux de culte conformément à la Constitution et à la loi. Donc à partir de là, on n'a pas besoin d'être dans la provocation et d'essayer de salir l'image, de la même manière que ces filles qui essayent de déjouer la laïcité à l'école en mettant des abayas de telle ou telle manière, et elles diffusent ça dans les réseaux sociaux, tout ça pour essayer de déjouer la loi. Mais vous croyez que vous êtes les plus malins, mais ils sont plus malins que vous. Arrêtez de votre délire et de s'amuser avec la religion. L'islam n'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer au cow-boy aux Indiens ou bien à qui attrape-moi si tu peux. C'est totalement irresponsable et pour moi détestable que de se jouer de la religion. Dieu dans le Coran, il dit dans la sourate Al-Kahf que nous avons lu hier concernant justement cette attitude là
la caverne, vous l'avez lu où?
Oui, bah, le vendredi, Philippe, il est très recommandé que de réciter la sourate la caverne, et il y a un verset qui justement évoque cette. Attends, alors juste je vais essayer de retrouver.
Oui, de toute façon.
Parce que je l'ai maintenant, le verset.
Bon, oui.
Le verset qui nous dit dans le verset 104. Alladhina dhalla sa'yuhum. Dieu qui. Ceux qui ont égaré leur méthodologie, leur agissement. Fil hayati dunya, dans ce bas monde. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alors que ils pensent qu'ils ont accompli quelque chose d'honorable. Ouais, moi j'ai défendu l'islam, j'ai défendu l'abaya, j'ai défendu le hijab, j'ai défendu le Coran, alors qu'ils sont totalement égarés. Hein, l'attitude du croyant, c'est de répondre à la demande que seulement quand on vous le pose, quand vous interroge. Dieu dans le Coran, il est dit wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Il nous est demandé que seulement de transmettre de manière évidente à celui qui le demande. Mais celui qui veut pas t'écouter, qui a pas envie d'entendre, il n'est pas réceptif à ton discours. Au contraire, quand tu vas lui imposer cette discussion, il va encore plus haïr l'islam. Pourquoi t'imposes? Pourquoi t'es dans cette démarche-là? Donc soyons discrets. Nos convictions, c'est d'abord pour nous. Dieu, Yom Al-Qiyama, il nous posera pas la question sur les autres, les convictions des autres. Il te posera la question à toi. Man rabbuk, quel est ton seigneur? Wa ma dinuk, et quelle est ta religion? Wa ma taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'itha fikum. Cette question, ces trois questions-là te seront posées dans ta tombe, à toi seul, pas aux autres. Donc occupe-toi de toi et laisse aux experts, aux savants, aux sachants, hein, le travail, le rôle, la mission de transmettre de la religion d'Amor de manière authentique, parce qu'ils l'ont étudié pour la transmettre de manière authentique, mais aussi la manière et la méthode, la méthodologie de transmission, conformément à cette sagesse divine qui nous est imposée dans le Coran quand il dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikma » prêche la bonne parole avec sagesse. Et ce n'est pas du tout sage, et loin d'être sage, ce que a commis, a accompli ce chauffeur, ce musulman qui, pour moi, a fait du tort à l'islam plus qu'autre chose, de la même manière que les terroristes, de la même manière que tous ceux qui utilisent la contrainte, la force, la violence pour propager l'islam. C'est bien entendu, tout cela est particulièrement détestable et il faut, bien entendu, se totalement innocenter et se démarquer de tout cela.
C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM. Je rappelle que vous pouvez intervenir en direct, hein, au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, on a prévu de parler des signes dans le Coran ce matin, Imam Abdelali, mais maintenant il y a des appels au standard, donc je vous invite à répondre
signes,
aux questions.
Une autre fois.
Aux questions des auditeurs. Alors, nous avons Malika qui est avec nous. Malika, bonjour et bienvenue. Malika, qui n'est plus là. Omar. Omar, bienvenue.
Allô?
Oui, hein, Omar.
Oui, salam alaikum, bonjour tout le monde.
Salam alaikum.
J'ai une question en fait par rapport à mon fils. Avant, sur la vinoiserie, les croissants et les pains au chocolat, il marquait pas dans alcool. En fait, il marquait arôme naturel, il rajoute pas dans alcool. Et récemment, ça a été marqué, maintenant il marque toujours dans alcool. Et donc j'ai mes enfants, mon fils en l'occurrence, qui refusent de manger ça. Il voulait avoir confirmation.
Bah écoute, il y a des avis divergents sur la question. Est-ce que cet alcool qui s'est évaporé à la cuisson est considéré comme totalement dérisoire et tellement infinitésimal en matière de quantité, donc impossible d'être source d'enivrement. Donc certains savants diront que non, c'est pas un problème, faut pas être on a d'autres péchés ou d'autres choses à travailler en nous-mêmes que ce genre de futilité, même si on peut s'y dire que même l'alcool reste illicite et reste une source d'impureté. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu jettes de l'alcool dans un produit, il va le souiller, ça va le souiller, c'est-à-dire il devient un najasa.
Mais c'est quoi, Omar, comme confiserie, là, comme viennoiserie, vous m'inquiétez?
Là maintenant, tous les pains au chocolat et tous les croissants, tout de même les pains de mie.
Mais attends, celles qui sont emballées, industrielles, ouais. Tu parles pas celles qui sont vendues dans les boulangeries.
Ouais. Non, industrielles.
Bah, achète du frais dans les boulangeries, comme ça, trop bien boisson. C'est vrai le pain de mie, ou bien les pains de burger, etc. Il y a souvent marqué alcool. Donc moi, je pense que bon, si on peut s'en passer, le remplacer par autre chose, pourquoi pas. Sinon, on peut suivre l'avis des savants qui considèrent que la quantité étant tellement infinitésimale, qui même cette quantité-là est évaporée à la cuisson, eh bien, je pense que il faut pas trop se durcir la vie. Si tu vois marqué alcool, bah écoute, tout de suite, t'as une réticence, tu n'achètes pas. Mais si tu achètes et que tu consommes et tu dis bismillah, inshallah, mais tu suivras l'avis de ceux qui l'autorisent. Je répète, cette question-là fait l'objet de divergences et je veux pas polémiquer sur la question pour dire qui a raison, qui a tort.
Non, mais c'était même pas marqué alcool directement dans le contenu. En fait, c'était arôme naturel.
Alors non, bah alors à ce moment-là, écoute, si c'est pas marqué, tu consommes.
D'accord.
Si c'est marqué alcool, tu peux consommer en suivant l'avis des savants qui l'autorisent. Et tu peux aussi ne pas le consommer en disant ben moi je préfère éviter mimbab et tawarra, c'est une forme de piétisme ou de voilà, dans une démarche de piétisme, mais il faut avoir déjà atteint un niveau quand même assez élevé en matière de foi et de piété que de se focaliser sur ce genre de détails, alors que de l'autre côté on commet des atrocités. Donc travaillons d'abord nos grosses bêtises avant de nous soucier de ces petites qui sont insignifiantes et qui nous détournent malheureusement de ces grosses bêtises que l'on fait, notamment avec notre langue ou avec notre attitude et notre comportement. Nous travaillons plutôt notre comportement. Inch'Allah, oui, Al-Amin, il fermera les yeux, il nous pardonnera pour ces petites lamem, comme on appelle ça en arabe, ce sont des lamem. Lamem, ce sont les tout petits péchés qui sont pardonnés par la prière et qui sont purifiés par la prière. Comme le dit le prophète, alayhi salam, si quelqu'un habitait à côté d'un fleuve et qui se lavait 5 fois par jour, lui resterait-il encore de la saleté sur son corps? Les compagnons ont dit non. Et Rasulallah qala, de la même manière qu'un croyant qui prie 5 fois par jour, eh bien, c'est l'opportunité à chaque prière de se purifier de ce qui aurait été des erreurs qu'on aurait pu commettre entre chacune d'entre elles. Donc, continuez nos prières. Faisons nos prières à l'heure, Inch'Allah. Et pour ces petits détails, Rabbil Alamin, il sera certainement suffisamment miséricordieux pour pardonner et nous focaliser sur les atrocités et les grosses, grosses bêtises que l'on commet et dont nous sommes insouciants et indifférents. Faisons les choses par étapes. En fait, occupons-nous d'abord des grosses bêtises.
En fait, par rapport à ça,
est-ce qu'il a écouté, Omar, la réponse, votre fils?
Là, il est à côté de moi.
Bon, oui, donc il a écouté la réponse.
Moi, je dis à ton père de t'acheter des croissants frais, qui sont de la boulangerie, du quartier,
ou dis à ton père de les faire le week-end, bon, samedi, dimanche. Papa, il fait les croissants.
Ouais, mais à partir du moment où c'est pas manger frais, un croissant, dès que c'est le lendemain, ça y est, il est plus...
Bah, tu mets au four.
Ouais, d'accord. C'est pas la même chose. Bah, un croissant frais, ça n'a rien à voir.
Merci, Omar.
Ok, merci.
Après c'est psychologique. Si vous aviez, si vous achetez des viennoiseries et puis que vous voyez dons et extraits de porc, vous n'allez pas les acheter, voyez.
Ouais.
C'est psychologique.
Par contre, je voudrais dire, tu ouvres une parenthèse intéressante. Moi, je vois des gens qui s'insurgent sur le fait que on a analysé certains produits, on a trouvé des résidus de porc. Je rappelle que ces résidus de porc n'entachent pas le caractère halal du produit. Par exemple, dans un pâté ou quoi que ce soit, on trouve des résidus de porc et il reste halal. Arrêtez de vous insurger en disant que ce sont des escrocs qui nous vendent du porc, etc. C'est pas vrai. Quand on parle de résidus de porc, c'est infinitésimal, c'est du 0,000. Alors qu'est-ce que c'est que ce porc? D'où vient-il? C'est simplement les machines qui vont broyer la viande. Elles sont utilisées le matin quand elles sont propres pour la viande halal et ensuite ils mettent la viande de porc, etc. Et le soir, elle est nettoyée. Sauf que parfois, il nettoie pas très bien. Il nettoie la machine, mais il reste des petits morceaux. Et ces morceaux-là, le lendemain matin, ils se mélangent avec la viande halal. Et alors, bien sûr, les analyses vont vous détecter une infinitésimale de viande de porc. Eh bien, sachez que, islamiquement parlant, à l'unanimité des savants, cela n'entame pas le caractère halal de cette nourriture. Parce qu'on y a trouvé des résidus infinitésimales de porc. Arrêtons le délire de casser le business de certains frères qui font l'effort de proposer des produits halal en allant faire des analyses et titiller et chercher la petite bête dans un truc qui est totalement insignifiant.
Là, c'est la grosse bête, par contre.
Non, tu parles du porc. Oui. Mais la quantité de porc trouvé, c'est 0,0000, je sais pas quoi. C'est ça, la vérité. Et on vous sort ce chiffre-là. Oh, regardez, il y a du porc. Mais arrêtez, là. De quoi vous parlez, là? Vous parlez d'une quantité infinitésimale.
Donc, l'avis unanime des savants.
Oui, on a le droit de manger cette viande, elle est halal. Parce que la viande elle-même qui a été utilisée, c'est de la viande halal. Après, si elle a été souillée par un truc qui est insignifiant, ça ne le rend pas illicite. Il faut que ça soit significatif. Il faut qu'il y ait quand même une quantité, en plus volontaire, où le gars il a mis de la viande de porc dans un pourcentage qui est non négligeable, qui le rend bien sûr illicite. Mais ça c'est complètement absurde.
Naïma au 01 53 48 3000. Naïma, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, salam alaikum imam. Je souhaiterais vous poser une question concernant le voile. Donc je vais vous expliquer un peu ma situation. Donc je travaille à l'assistance publique hôpital de Paris. Donc je suis infirmière. Donc je porte le voile. Et je retire mon voile au vestiaire avant de commencer ma journée de travail. Donc je souhaiterais savoir est-ce que dans la religion ça passe ou ça passe pas, parce que j'ai entendu plusieurs avis différents. Donc voilà, c'était la question que je me posais.
Ben moi je pense que dans les hôpitaux on a besoin d'infirmières, mais que ça soit des infirmières musulmanes ou pas, la composante musulmane de France a besoin aussi de s'émanciper professionnellement. Si vous avez fait des études Bac+4, je crois, au moins minimum pour être infirmière, oui. C'est pas pour qu'après vous restiez à la maison pour soigner vos enfants, parce que vos enfants la plupart du temps ne sont pas malades, alors qu'au contraire, il existe des patients, des gens qui sont malades dans les hôpitaux qui ont besoin de vous. Donc à partir de là, vous êtes obligé de respecter les règles qui sont imposées, les règles de laïcité qui sont imposées dans les hôpitaux. À partir de là, vous êtes sous la contrainte, la nécessité qui fait loi. Vous êtes, parce que si on vous donnait le choix, vous garderiez votre voile. Mais là, en l'occurrence, on ne vous donne pas le choix. Donc, vous êtes obligé de faire ce qu'on vous demande. Sinon, vous perdez votre travail. Voilà.
Oui, bien sûr, tout à fait. Surtout que même la Charlotte, maintenant, elle n'est pas acceptée. Donc, effectivement, j'enlève.
Ah oui, c'est étonnant. Même la Charlotte. Pourtant, la Charlotte, non, c'est hygiène. C'est question d'hygiène, non?
Ça dépend des services, en fait. Quand vous travaillez dans un bloc opératoire, la Charlotte est obligatoire. Quand vous travaillez dans des services, par exemple, de médecine ou de maternité, ou etc., là, la Charlotte, ça dépend, en fait, des services.
Ma sœur, ce que moi je vous dis en tant qu'imam, c'est d'appliquer le verset coranique qui dit « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » Et le verset qui dit « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » C'est-à-dire, n'exposez pas vos atours et votre corps dans un but de séduire. À partir du moment où vous vous habillez décemment, vous n'avez pas de décolleté ou des vêtements moulants, etc. Là où est-ce que justement le règlement n'est pas restrictif, eh bien à ce moment-là, habillez-vous décemment avec des vêtements amples, etc. Essayez d'être le moins possible dans une démarche de séduction et faites votre travail. Et faites voir votre compétence intellectuelle et scientifique en tant qu'infirmière. Et inshallah, Rabbil Alamin, Ghafour Rahim, inshallah.
Amin, inshallah. Et en tout cas, je voulais souligner le PT. Vous savez, vous avez parlé il y a quelques minutes du chauffeur de bus qui se permet de mettre le Coran dans le bus. Moi, je trouve ça inadmissible, juste parce que déjà, on est dans une situation où les musulmans, on est en souffrance parce que on est stigmatisé. Moi, personnellement,
Il leur a donné du blé à moudre.
Ben, moi, plus tard que je dis, dans mon service, ça ne parlait que de ça. Je peux vous dire que je me sentais vraiment gênée parce qu'on était là en train de pointer les musulmans. Oui, encore un chauffeur de bus, etc. Moi, j'étais la seule musulmane autour de tout ça. Et honnêtement, je me sentais vraiment, vraiment mal à l'aise. Donc, je voudrais dire à ces gens-là qui se permettent de faire n'importe quoi, d'arrêter d'utiliser l'islam à mauvais escient, j'ai envie de dire, parce que c'est nous qui payons la facture dans tout ça. C'est les gens qui demandent rien, qui demandent qu'à travailler et qui appliquent la religion appliquez la religion chez vous tranquillement. Arrêtez de salir notre religion, parce que notre religion, c'est pas du tout ça. Notre religion, c'est une religion de paix et d'entraide. Donc il faut arrêter tout ça, s'il vous plaît. Arrêtez.
J'en rajouterai pas.
Voilà.
Je pourrais pas dire mieux que ça.
En tout cas, merci beaucoup à Philippe, en tout cas, pour votre émission. Naïma, c'est juste formidable.
Bah, tant que vous serez là, on sera là avec vous, en tout cas, le samedi matin en direct, Naïma. Merci
c'est
beaucoup.
Très gentil à vous. Merci à vous. Bonne journée.
Allah, alors, nous avons Karim. Karim. Bon, on a le temps? Oui, on a le temps de prendre Karim. Karim, bienvenue.
Oui, bienvenue. Bonjour. Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaban akhi Karim.
Petite question, s'il te plaît. J'ai envie d'acheter une voiture avec une méthode de facilité. Donc, avec un apport et le reste, c'est 48 mois ou bien 60 mois. Est-ce que de cette manière-là, c'est entre dans le titre de riba ou non?
Alors, si c'est le vendeur du véhicule qui vous propose une vente à terme, où le prix du véhicule est plus cher que si c'était une vente cash. C'est-à-dire que le vendeur vous dit, la voiture, je te la vends 40 000 euros cash, mais si tu peux pas, eh bien, je te la vends 50 000 euros à terme. C'est-à-dire que tu payes tous les mois, et c'est entre toi et moi, l'acheteur et le vendeur. Ça, c'est halal. Ça, c'est pas riba.
Okay.
D'accord? Puisque le seul contrat qui existe, c'est celui qui où tu payes 50 000 euros, le véhicule coûte 50 000 euros, tu as accepté de l'acheter 50 000 euros, mais c'est une vente à terme où le vendeur accepte de recevoir des mensualités. Ça, il n'y a pas de problème. Là où ça va, le bas blesse, là où ça ne va pas aller, c'est quand tu vas aller à la banque pour demander un prêt pour que la banque paye le vendeur, et toi, tu te retrouves à payer la banque l'argent que tu as emprunté finalement, et tu paieras à cela des intérêts. Ça, c'est riba. Ça, c'est ce qu'on appelle riba. Ça, c'est pas autorisé.
Donc, il faut tout simplement passer directement chez le vendeur.
Ah, c'est le vendeur, c'est entre le toi et du vendeur. Écoute, Yahi, je suis prêt à te l'acheter plus cher si tu acceptes de... je te paye un apport, par exemple, je te donne, allez, on va dire 20% ou je sais pas combien, ce que tu es capable de payer en apport. Et après, tu payes petit à petit et tu payes plus cher que le prix initial. C'est-à-dire, le prix, tu lui dis, voilà, Anna, ta voiture, au lieu de la donner à la banque, je la donne à toi. Ça, c'est halal. C'est une vente à terme, tout simplement. Là, il n'y a pas de difficulté. Parce qu'il y a pas, on n'a pas emprunté de l'argent. Il n'y a pas de prêt d'argent. Il n'y a pas un troisième intervenant qui vient là pour juste simplement prêter de l'argent et vendre du temps.
Oui, mais enfin, souvent, vous savez, les constructeurs automobiles ont des banques.
Alors là, la question, elle est un petit peu subtile. Tu as raison, Philippe, parce que longtemps, moi, je me suis posé la question sur ces fameuses banques qui sont la propriété des constructeurs. Par exemple, la DIAC, qui appartient à Renault.
À Renault.
Est-ce qu'il est autorisé de faire un crédit alors que c'est Renault lui-même qui te fait ce crédit? Donc c'est le vendeur lui-même qui te prête de l'argent. Sauf que là, Philippe, il y a un problème, c'est qu'il y a deux contrats. T'as à la fois le contrat de vente et t'as un contrat de prêt. Où est-ce que tu t'engages à emprunter de l'argent de la DIAC et rembourser à la DIAC, puisqu'à la fin, le Renault, si tu veux, le fabricant, le constructeur, te dit c'est bon, tu as payé, la DIAC à qui tu as emprunté l'argent, va te réclamer des intérêts. Donc, cette histoire-là me semble douteuse, même si la DIAC appartient à Renault. Donc, c'est à la fois Renault qui te prête de l'argent, qui en même temps te vend le véhicule. Elle est là, l'ambiguïté. Parce qu'il y a, voilà, il y a un choubha, comme on appelle ça, une choubha, c'est-à-dire quelque chose de douteux. Donc, si on peut s'éviter, c'est mieux. Si vous êtes obligé de passer par là, vous n'avez pas d'autre choix, eh bien, vous pouvez tout simplement vous fier à cette manière de faire, puisque considère que si c'est le vendeur qui te prête lui-même l'argent, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté.
Okay.
Selon ceux qui considèrent que comme c'est la même entité, Renault, qui est à la fois vendeur et prêteur. Donc, là, il n'y a pas de difficulté. Si on considère que c'est autorisé. Moi, je préfère éviter. Je préfère dire aux gens éviter de faire ça. Voilà.
Donc,
c'est mieux vente à terme. Vente à terme, c'est mieux. La vente à terme. Donc, tu peux vendre à terme, Inch'Allah.
Excusez-moi, donc dans le même sujet, car j'ai l'envie d'avoir la formation taxi, d'acheter une licence pour l'exploitation. Licence de transport pour un taxi.
Ah, Khoya, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te prête de l'argent moyennant des intérêts, c'est riba. Le seul péché que Dieu déclare la guerre, c'est riba. Il n'y a pas d'autre péché que Dieu a déclaré la guerre. فَإِلَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dieu a maudit certaines pratiques, certains comportements, mais le seul comportement que Dieu a déclaré la guerre, c'est pas il a maudit, il déclare la guerre. C'est celui qui pratique l'usure, que ça soit le consommateur ou que ça soit le prêteur.
Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de fatwas qui l'autorisent. Hein.
Il y a des fatwas, ça, en tout cas, ça ne sortira pas de ma bouche. Parce qu'à maintenant, moi, je...
Non, mais il faut le dire, parce que...
Moi, je ne tiendrai pas cette compromission qui consiste à rendre licite un des sept péchés capitaux. Je répète qu'il est cité dans la liste des sept péchés capitaux. Ce n'est pas quelque chose d'anodin pour qu'on s'amuse avec ça et qu'on le prenne à la légère.
Alors, vous êtes nombreux au standard à vouloir poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Je vous rappelle que vous l'appelez au 01-53-48-3000, 01-53-48-3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, émission en direct tous les samedis depuis des années. Vous le savez, l'imam Abdelali Mamoun répond à vos questions. C'est une heure pour parler d'islam. C'est votre émission 01 53 48 3000. Alors on a Asdin qui nous appelle, imam Abdelali, qu'on accueille et qui nous appelle du Val-de-Marne. Pardon. Asdin, bienvenue.
Oui, salam alaikum, bonjour monsieur.
Wa alaikum salam, marhaban ya Azdi.
Marhaban Imam Abdelali, c'est juste pour une question. Moi en fait, voilà, j'ai 3 enfants. Et j'attends, Inch'Allah, il y a encore un quatrième qui arrive, Inch'Allah. Et j'ai jamais fait la Aqiqa, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible de faire une fois que le bébé qui arrive, est-ce que c'est possible de faire pour tout le monde?
Oui, mais t'es pas obligé d'attendre que le bébé naisse pour le faire pour toi. D'abord, attention, c'est un mouton par enfant. Hein, il y a un hadith qui dit kullu mawlud marhoun bi aqiqati. Chaque enfant reste l'otage de sa aqiqa. Donc normalement, on est censé faire et immoler un animal, un mouton, un bélier, un mouton, voilà, ou même un animal herbivore qui peut être par exemple un chameau ou un veau ou un bœuf, etc. Tout cela, ça rentre dans les animaux qui sont qui peuvent faire l'objet d'une aqiqa, donc d'un abattage rituel au nom de l'enfant. Tu dis Bismillah anil mauloud kada et tu n'es pas obligé d'attendre l'arrivée de ce bébé-là. Tu peux commencer par en faire un maintenant pour en citant le nom de l'aîné. Ensuite, t'en feras un autre un peu plus tard pour le suivant, etc. Jusqu'à que tu aies égorgé pour tous les enfants. Et je t'invite à le faire parce que tu achètes ta viande chez le boucher. Au lieu d'acheter ta viande chez le boucher, eh bien, achète un mouton périodiquement. Et dès que tu as terminé la consommation de la chair, le mouton que tu as égorgé pour l'enfant, eh bien, t'en fais un autre pour le suivant et ainsi de suite. Comme ça, ça ne te coûte pas grand chose puisque c'est la même chose. Il faut avoir simplement un gros congélateur, quoi, pour être capable de conditionner la viande que tu ne vas pas consommer le jour même et que tu vas consommer à petit.
Oui, ça veut dire que j'achète pas l'agneau déjà qui est bon, donc j'achète vivant.
Non, il faut que le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui va égorger l'animal, cite le nom de l'enfant. Il dit Bismillah anil mauloud kada. Et il doit citer le nom de l'enfant. Pour chaque animal, il y a une niya, il y a une formule à prononcer. Bien sûr, tu commences toujours par Bismillah, au nom d'Allah, pour l'enfant. Tu dis pour l'enfant, anil mauloud kada. D'accord? Et puis tu fais à chaque fois périodiquement. Bien sûr, quand ce nouveau bébé va arriver, eh bien, il faut pas commettre encore une fois la même erreur. Le septième jour, de préférence, tu fais immoler un animal. Ça veut dire que par exemple, s'il est né un jeudi, eh bien, le mercredi suivant, tu égorges l'animal. C'est le septième jour. D'accord? Donc, s'il est né jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, eh bien, le mercredi, c'est le septième jour. Eh bien, tu égorges un animal le mercredi suivant. Voilà, et ainsi de suite. Allô, Majar.
Et pour les cheveux, parce que dans le fond, il faisait peser les cheveux, couper les cheveux.
C'est une sunna aussi, mais qui n'est pas forcément fortement recommandée. Si tu as la crainte d'abîmer le crâne de l'enfant ou de commettre une erreur, parce que le bébé va bouger. Et ça peut, tu peux commettre une, sauf si tu utilises vraiment un outil extrêmement, on va dire sécurisé, des rasoirs qui sont de très grande qualité et bien sécurisés où l'enfant ne risque rien. Tu le fais, ouais, tu le rases et tu fais une aumône de l'équivalent du poids des cheveux en or ou en argent. Ça peut être à peu près de 1 gramme ou 2 grammes, sachant que le gramme il est à peu près à 50 euros. Bah, tu fais une sadaqa de 50 à 100 euros. C'est une sadaqa que tu vas donner aux pauvres, bien sûr.
Merci, voilà. Asdin. Abdel est avec nous, Abdel. Bienvenue.
Allô?
Oui. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, alhamdoulilah. Dites-moi, s'il vous plaît, j'aurais une question. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. J'aurais une question par rapport à mon activité professionnelle. En fait, j'ai une question qui me traverse. C'est que dans le cadre de mon activité en fait, professionnelle, je suis amené à m'isoler avec une femme, puisque je suis moniteur auto-école. Donc on s'isole
dans la voiture. Dans la voiture. D'accord. Attends. La voiture. Est-ce qu'il y a des carreaux qui sont teintés ou bien qui sont transparents?
Non, transparents.
Non. Alors c'est pas un isolement. Un isolement, c'est quand personne ne vous voit. Là, vous êtes dans la voiture, vous êtes dans l'espace public, vous n'êtes pas isolé. L'isolement, ce qu'on appelle la khalwa, qui est prohibée dans l'islam, où le prophète dit ma khala rajulun bimra illa wa kana ash-shaytan thalithahuma, c'est quand tu es dans une pièce fermée et seul avec une femme. Et en particulier quand cette femme-là, elle est particulièrement fitna, si elle est en plus, elle est séduisante, etc. Ou est-ce que shaytan, il va travailler ton cerveau?
Par rapport à ça, imam, en fait. C'est que, en fait, je suis amené dans des situations où, voilà, c'est l'été,
Est-ce que tu es dans une pièce isolée avec elle?
Non, c'est dans
la voiture. Non, c'est la voiture. Non, ça rentre pas dans le khalwa. Ça rentre pas dans le khalwa. Ça n'est pas de la khalwa. La voiture n'est pas une khalwa.
D'accord.
Sauf si la vitre est teintée, sauf si toutes les vitres, y compris le pare-brise, mais il n'y a pas de pare-brise teinté, moi je ne connais pas. Non, si ça existe. Ouais, mais bon.
En customisation, bien sûr que ça existe.
Ouais, mais non. Mais en tout cas, à partir du moment où la voiture est transparente, les carreaux sont transparents, ça n'est pas de la khalwa. Donc il n'y a pas de problème de travailler. Tu fais ton travail, c'est tout. Tu restes respectable et tu te comportes professionnellement sans frivolité, sans voilà. Tu te comportes normal.
Juste une petite.
Je suis sûr que ta femme va apprécier en plus.
Ben justement, je vous raconte pas. Juste parce que dans le cadre de mon métier aussi, je suis amené à intervenir en fait sur le volant et je vous cache pas que des fois, intentionnellement en fait, sans le faire exprès, il y a contact en fait.
Il y a rien, c'est rien ça.
C'est rien, d'accord.
C'est rien. Bon, tu évites, mais si tu touches le volant, si après t'as frôlé la main de là, et alors, on va pas faire un cinéma parce que tu as frôlé la main d'une élève auto-école. Ça n'était pas volontaire. Tu n'as pas été dans une démarche de séduction ou tout simplement d'harcèlement sexuel.
Bon, c'est très clair, Imam Abdelali. On accueille Ahmed.
Faut rester professionnel,
avec nous,
tout 01 simplement.
53 48 3000. Ahmed. Ah, ça c'est du générique.
Alors on va prendre
Mohamed, bienvenue.
Salam, maître, salam.
Alors maître, c'était entre 9h et 10h. Alors maître Serran, que j'embrasse très fort au passage.
Maître l'imam.
Non, Abdelali Mamoun, ça sera celui qui veut m'appeler. Abdelali Mamoun, Hajj, imam, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je n'ai aucune...
En fait, j'ai juste une petite question.
Je n'impose rien. Il n'y a aucun protocole en ce qui me concerne. Vas-y, je t'écoute. Okay.
En fait, j'ai juste une petite question par rapport au viager libre.
Au viager, oui.
Donc
c'est viager, V-I-A-G-E-R.
Voilà,
c'est le viager libre. Alors, le viager libre n'est pas autorisé puisqu'il s'agit simplement d'attendre que le vendeur meure pour arrêter de payer les mensualités et enfin de récupérer les clés de la maison. Donc il y a la date d'acquisition qui est inconnue et le prix de la maison est inconnu dans le viager libre.
Non, mais le viager libre, ce que j'ai vu la dernière fois, en fait, il y a un montant. Donc on va dire le bien, il coûterait, on va dire 200 000 euros. Vous allez occuper la maison, donc vous allez utiliser ce bien-là.
Bah alors, c'est quoi alors? J'ai pas compris. C'est une vente?
Viager libre, donc c'est un truc tout nouveau que quelqu'un qui m'a parlé.
C'est pas nouveau, viager libre.
Bon, c'est ça ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit la personne, donc on va dire les 200 000 ou 250 000. Et donc je donne les 70 000 d'apport ou un truc comme ça, donc directement à la personne. Ouais. Après, il y aura des mensualités chaque mois.
Oui, c'est une vente à terme donc. C'est une vente à terme. Mais voilà, est-ce que tu rentres dans la maison? Est-ce que tu récupères les clés?
Oui.
D'accord. Et lui, il va où, lui, avec l'argent?
Je sais pas. Donc ça.
Ah, c'est-à-dire, on est bien d'accord, il quitte la maison et il te donne l'usufruit intégralement.
Il quitte la maison.
Donc là, on a la date qui est connue, la date d'acquisition, elle est connue, c'est le moment de l'achat. C'est ça? Au moment où tu donnes l'apport, tu récupères les clés, tu rentres dans la maison, c'est bien ça?
Vous pouvez la louer ou bien habiter.
Oui, elle est à toi, c'est ta maison.
Voilà.
Au niveau notarié, c'est un acte de vente qui est inscrit au notarié, chez le notaire, etc.
Voilà.
Donc, et ensuite, le prix, lui aussi, est défini. Ça, voilà. Ce genre de contrat, il est licite, il n'y a aucun problème. C'est halal à 100%. Il n'y a aucun problème à faire ça.
Juste, là, vous m'avez fait... Je n'ai pas vraiment demandé sur ça parce que le prix...
Non, alors, moi, ce que je sais du viager libre... c'est qu'effectivement, il y existe c'est-à-dire un type de contrat où est-ce que la somme, même si la personne décède, tu continues à payer les héritiers, tu continues à verser des mensualités jusqu'à arriver au prix initial du prix de la maison. Mais souvent le gars il te dit moi je reste dans la maison. Bah là aussi donc la date d'acquisition étant inconnue puisqu'elle est liée au décès du vendeur, donc là c'est là, le contrat n'est pas halal. Puisqu'il faut que les deux soient définis. La date d'acquisition, tu récupères les clés. La date quand est-ce que tu récupères les clés et la somme totale du prix du bien.
Bon, on vérifiera pour la semaine prochaine quand même un petit peu cette procédure.
Je n'ai aucun doute. Là-dessus, ce que je dis, c'est l'unanimité des savants. Dans Aqd el-Bay, dans les actes de vente, les actes de transaction commerciale où un bien est vendu, il est obligatoire de définir la date d'acquisition parce qu'on peut très bien se mettre d'accord pour que je récupère la maison que seulement dans 5 ans, à telle date, le 1er janvier 2030, par exemple. Il n'y a pas de problème, même si tu payes avant. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de faire ça. Vous pouvez définir une date d'acquisition. Mais date inconnue qui reste à la date du décès du vendeur, ça, c'est pas autorisé.
Alors, Imam Abdelali, vous pouvez donner votre numéro de téléphone avant qu'on ne soit coupé. Allez-y.
Alors, le 06 29 25 35 00. Alors, j'organise la Umrah au mois de décembre, les vacances de Noël, Inch'Allah, du 20 décembre au 1er janvier. Je répète, du 20 décembre au 1er janvier. Il reste encore pas mal de places, pas beaucoup, hein, une dizaine de places seulement qui restent pour mon groupe qui partira le 20 décembre. Jusqu'au 1er janvier pour une durée de 6 jours à Médine et 6 jours à Mecca, ça fait 12 jours au total. Ceux qui souhaitent venir avec moi vivre des moments intenses de spiritualité, de culture générale, être baigné dans le berceau de l'islam qui est la Mecque et Médine, eh bien vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Voilà, tout est dit.
Imam Abdelali, on vous retrouve samedi prochain. Dans un instant, ce sont vos petites annonces week-end que vous passez au standard de Beurre FM. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.